Monde aujourd'hui à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition des 17h30 TU du lundi 10 décembre 2018. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres. Colère des enseignants en Côte d'Ivoire. Ils demandent l'amélioration des carrières et conditions de vie. L'Union européenne prolonge pour un an les sanctions contre 14 personnalités en RDC, dont Emmanuel Ramazani Shadary, candidat à la présidentielle. Près de 150 pays ont approuvé au Maroc le pacte mondial sur les migrations dénoncé par d'autres pays. Et puis Theresa May, première ministre britannique, a annoncé le report du vote du Parlement sur le Brexit. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir. En Côte d'Ivoire, 16 syndicats de l'enseignement primaire appellent à une mobilisation de 5 jours pour réclamer des améliorations de carrière et des conditions de vie. La grève est très bien suivie à Abidjan, à Boaké, à Bondoukou et à Sassandra, selon les conditions de ces syndicats ivoiriens. Les précisions de Morgane Guiriec.
L'intersyndicale réclame la suppression des cours le mercredi, une amélioration des carrières et des conditions de vie via des concours exceptionnels de promotion, la finalisation du profil de carrière des fonctionnaires et la revalorisation de l'indemnité de logement. Le salaire mensuel d'un instituteur va de 200 à 250 000 francs CFA, mais celui d'un instituteur adjoint ne s'élève qu'à 100 000 francs CFA, d'après les syndicats. Le coût de la vie devient excessivement cher, il devient difficile pour les fonctionnaires de se loger, surtout à Abidjan, explique-t-il. La fonction publique ivoirienne est secouée par des grèves récurrentes depuis 2 ans, malgré la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la fonction publique et certains syndicats en août 2017. L'intersyndicale ivoirienne affirme représenter 70% des effectifs du ministère de l'Éducation nationale, qui compte 80 000 fonctionnaires.
Au Togo, un homme a été tué par balle ce matin à Sokodé, fief de l'un des principaux partis d'opposition dans le centre du pays. Ce décès intervient après un week-end des chauffourées entre les forces de sécurité et les partisans de l'opposition. C'est au moins la 3e personne à avoir été tuée depuis samedi, a souligné le représentant d'Amnesty. Les autorités, elles, font état d'au moins 2 morts ce week-end. Le Congolais Denis Mukwege et la Yassidi Nadia Mourad ont interpellé la communauté internationale et réclamé la fin de l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles en temps de guerre. C'était lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo, en Suède. Le gynécologue de 63 ans et l'Irakienne de 25 ans, ex-esclaves des djihadistes, ont reçu le prix des mains de la présidente du comité Nobel, qui a salué deux des voix les plus puissantes au monde aujourd'hui contre l'oppression des femmes. Le prix consiste en une médaille d'or, un diplôme et un chèque d'environ 870 000 euros. Nous y reviendrons en page magazine de ce journal avec une interview exclusive du docteur Denis Mukwege. L'Union européenne a annoncé la prolongation pour un an des sanctions visant 14 responsables congolais accusés de violation des droits humains. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle du 23 décembre. Les précisions de Nathalie Barge.
L'Union européenne considère Emmanuel Ramazani Shadary comme un des responsables de l'arrestation d'opposants et d'une violente répression de manifestations en 2017 à Kinshasa. En mai de cette année, son nom figurait parmi ceux de 9 responsables de la sécurité, ajoutés à une liste de personnalités déjà sanctionnées pour des violences en 2016. Il est aussi question d'un usage disproportionné de la force pour réprimer le mouvement Boudoudia Congo et d'autres manifestations au Kasaï. En octobre dernier, M. Ramazani Shadary avait protesté contre ces sanctions par la voix de ses avocats belges et avait demandé leur levée. L'Union africaine a également demandé la levée de ces sanctions. Parmi les 14 hauts responsables visés figurent le ministre de la Communication, Lambert Mende, et le chef de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mutondo. D'après Bruxelles, ces sanctions consistent en un gel des avoirs sur le sol européen et une interdiction de visa jusqu'au 12 décembre 2019.
Amnesty International a demandé ce lundi à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection de Boko Haram, accusant le Nigeria de n'avoir pas traduit les responsables devant la justice. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a ouvert en 2010 une enquête préliminaire sur 8 affaires présumées des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. 6 visent Boko Haram et 2 les militaires. La ministre française des Armées, Florence Parly, entame ce lundi une visite de 2 jours en Centrafrique. Elle va réaffirmer le soutien de la France à Bangui, une visite qui intervient au moment où la Russie est de plus en plus présente et livre des équipements militaires à la RCA. Florence Parly devrait remettre à cette occasion 1400 fusils d'assaut et des équipements amphibies au FACA, les forces armées centrafricaines. La ministre va aussi réaffirmer l'attachement de la France à l'initiative de paix menée par l'Union africaine dans ce pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, Theresa May a annoncé aux députés le report du vote sur l'accord de sortie de l'Union européenne qui était prévu demain mardi en raison des profondes divisions des parlementaires britanniques qui menaçaient de le voir rejeté. Idriss Fall.
Nous allons reporter le vote prévu demain mardi, a dit Madame Theresa May, soulignant que les députés britanniques sont particulièrement opposés à la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, dite solution du backstop. À l'Assemblée des communes, il y a une forte résistance tant au sein de son parti conservateur qu'au sein du parti travailliste, l'opposition. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, s'est entretenu hier soir avec Theresa May sur la situation. Elle a annoncé ce lundi qu'elle allait discuter avec ses homologues à Bruxelles des préoccupations du Parlement britannique. L'accord mis sur la table le 25 novembre est le meilleur qui soit et le seul possible. Il n'est pas question d'une renégociation, a affirmé la porte-parole adjointe de la Commission européenne, Mina Andriva. Peu auparavant, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé que le Royaume-Uni pouvait décider seul de renoncer au Brexit sans l'aval des autres États membres.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi les défenseurs des droits de l'homme de fermer les yeux sur les manifestations des Gilets jaunes en France, soulignant qu'ils étaient en revanche prompts à critiquer Ankara. Ceux qui défendaient les droits de l'homme pendant les manifestations de Gezi à Istanbul en 2013 sont devenus aveugles, sourds et muets face à ce qui se passe à Paris, a fustigé le chef de l'État turc lors d'un discours télévisé. Au total, 1723 personnes ont été interpellées dans toute la France samedi à l'occasion de la mobilisation des Gilets jaunes et plus de 1200 ont été placés en garde à vue selon des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés dimanche. Emmanuel Macron, lui, s'adresse ce soir aux Français. Quelques 150 pays ont formellement ratifié ce lundi le pacte de Marrakech, un texte sur les migrations piloté par les Nations Unies qui a suscité beaucoup de critiques de la part des nationalistes et partisans de la fermeture des frontières. Le point avec Raïssa Gironde.
150 États ont approuvé le pacte mondial sur les migrations. Ce texte est censé aider les États à gérer les flux migratoires à l'échelle internationale, à lutter contre les facteurs de migration et lutter contre les trafics. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté à ne pas succomber à la peur sur la migration. Il a dénoncé les nombreux mensonges à propos d'un texte qui a soulevé les critiques des nationalistes et des partisans de la fermeture des frontières. Pas de quotas ou d'obligation d'accueillir, mais les États s'engagent à favoriser l'emploi et l'intégration des migrants et leur garantir l'accès à une protection sociale. Le texte est rejeté par les États-Unis, qui le jugent contraire à la politique d'immigration du président Donald Trump et aussi divise l'Europe. Une quinzaine de pays ont déjà fait part de leur retrait ou du gel de leur décision sur le pacte. En Belgique, il a créé une crise politique. Le Premier ministre belge, Charles Michel, a dû prendre acte hier de la démission de 5 de ses ministres. En France, l'extrême droite est vent debout contre ce texte et tente de le greffer au mécontentement des Gilets jaunes.
Dans le cadre des consultations de paix sur le Yémen en Suède, Martin Griffith, envoyé spécial des Nations Unies, souhaite que la coalition militaire pro-gouvernementale sous commandement saoudien cesse ses opérations militaires contre Hodeïda en échange d'un retrait des combattants houthis de la ville portuaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire envisage d'augmenter sa production d'or de 25 tonnes à 50 tonnes d'ici à 2025. Dans le souci de diversifier son économie, ce pays s'efforce de relancer son secteur minier longtemps négligé. Le chiffre d'affaires de ce secteur a progressé de 11,5%. Cette augmentation est principalement liée aux exportations d'or, de manganèse et de nickel. Au Nigeria, l'économie a progressé de 1,81% au troisième trimestre de 2018 sous l'impulsion du secteur non pétrolier qui a atteint 2,32% selon l'Office des statistiques. La production pétrolière a légèrement augmenté à 1,94 million de barils par jour contre 1,84 milliard de barils le trimestre précédent. Cependant, la croissance pétrolière s'est contractée de 2,91% par rapport à l'année précédente où la production était de 2,02 millions de barils par jour. Terminons avec la société sud-africaine de télécommunications MTN Group qui est toujours en pourparlers avec les autorités nigérianes concernant un différend de 8,1 milliards de dollars que MTN aurait envoyé à l'étranger en violation de la réglementation d'échange. La société a nié tout acte répréhensible. Elle fait également face à une demande fiscale de 2 milliards de dollars de la part du procureur général du Nigeria, une réclamation qui, selon MTN, est sans fondement.
Yacouba Ouédraogo nous a rejoint sur ce plateau et c'est pour nous parler de sport. Yacouba, on ne finit pas de parler, n'est-ce pas, de la CAN. La CAF attend une réponse de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023.
Bonsoir John, bonsoir à tous. On attend, nous avons fait la même démarche qu'avec le Cameroun. Nous avons envoyé la lettre lundi ou mardi. Il y aura une réunion entre le Premier ministre et les gens qui s'occupent de l'organisation de la CAN. Donc, on va voir, a expliqué Ahmad Ahmad, président de la CAF. La Côte d'Ivoire n'est plus le pays hôte de la CAN 2021, après le retrait de la CAN 2019 au Cameroun et le décalage des éditions. En 2014, la CAF, alors présidée par Issa Hayatou, avait attribué les trois prochaines CAN d'un seul coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.
Le Cameroun, lui, est d'accord pour organiser l'édition 2021.
Le Cameroun, qui s'est vu retirer fin novembre l'organisation de la CAN 2019, est d'accord pour devenir le pays hôte de l'édition 2021, a assuré Ahmad Ahmad. J'ai la lettre et je communique avec la présidence de la République. On est d'accord pour 2021, a annoncé le président de la CAF.
Et puis on connaîtra le pays organisateur de l'édition 2019 le 9 janvier.
Après la clôture de l'appel à candidature programmée le 14 décembre, tout sera finalisé le 25 décembre pour faire sortir une shortlist de candidats avec leur évaluation et des notations claires. Le comité exécutif va se réunir le 9 janvier à Dakar au Sénégal donc, où nous donnerons la décision à expliquer Ahmad. Le président de la CAF a ajouté qu'il y a deux ou trois lettres d'intention qui ont été reçues, dont une de l'Afrique du Sud.
Sur les pelouses, Yacouba, le triplé pour Oroya en Guinée.
Oui, après son sacre en coupe et en championnat, le club de Matam s'est adjugé la super coupe en battant 1-0. Wakuya Assé, son adversaire malheureux en finale de la dernière coupe. Godfrey Asante a inscrit le seul but de la partie à la 74e pour offrir à l'entraîneur français Patrice Neveu, récemment nommé, son premier titre avec le Oroya Assé. A noter que les vainqueurs ont tout de même fini le match à 10 suite à l'expulsion du défenseur Yakubu Oubou à la 73e.
Et enfin, Yacouba, Denis Lavagne, nouvel entraîneur du CS Constantine.
Oui, le club algérien a officialisé la nomination du français comme nouvel entraîneur. Denis Lavagne a signé pour 18 mois. Le technicien de 54 ans va devoir redresser la barre en championnat où le CS Constantine, tenant du titre, ne pointe qu'à la 8e place après 15 journées. Lavagne devra aussi passer l'obstacle Vipers SC de l'Ouganda pour assurer la qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour et on commence par Oslo en Norvège, où le médecin gynécologue Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, a reçu sa récompense ce lundi à l'hôtel des villes Rudoset à Oslo, en Norvège, conjointement avec la Yézidi Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes, un Nobel qui récompense leurs efforts en vue de mettre fin à l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles en temps de guerre. On écoute le docteur Mukwege, propos recueillis par Roger Muntu à Oslo.
Ce qui font la politique aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas un débat d'idées, c'est plutôt la distribution des biens. Je crois que pour moi, c'est pas la politique.
Votre pays, docteur, la RDC, pourra connaître dans quelques jours, pour la toute première fois, des élections crédibles et pacifiques. Y croyez-vous, docteur?
Je sais qu'il va se passer quelque chose le 23 décembre. Je ne sais pas si ça sera des élections. Je ne sais pas encore, c'est vous qui le dites, que ça va être libre et pacifique. Mais les signes que nous voyons, nous attendons que vraiment, je crois que le peuple congolais attend désespérément des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées.
On s'attend à ce que les docteurs puissent crier tout haut, je suis très content, mais on ne voit pas ça. On ne voit pas que le docteur comprend l'ampleur de ce prix Nobel. Il y a tout un monde là-dehors, et je ne vous apprends rien, qui est venu de partout. Notre collègue d'ailleurs, Cathy, qui est avec moi, nous aussi aujourd'hui ici, qui vient du Nigeria. Mais on ne sait pas vous lire ça. Est-ce que le docteur est très content? Est-ce que le docteur est très satisfait? Comment on ne peut pas lire ça? Le docteur peut dire, Roger, je suis très content aujourd'hui. Dites au monde entier que je suis quand même content.
Mais Roger, comment je peux être content quand je viens des pays les plus riches de la planète, où la population vit dans la pauvreté abjecte, une violence qui n'a pas de fin? Il n'y a pas une semaine, 12 personnes encore ont été massacrées. Toute cette année, on a connu des viols massifs. Moi, je crois que ce prix Nobel aura son sens si vraiment ces prix nous permettent à pouvoir changer la situation des femmes dans notre pays. Si ces prix peuvent nous permettre de changer la situation des survivantes de par le monde. Si ces prix peuvent nous permettre de pacifier le Congo, là, si nous avons de la paix au Congo, vous me verrez, Muntu, en train de crier très fort que nous avons gagné. Je vis avec la souffrance tous les jours. Les honneurs, c'est pas ça le plus important.
Le docteur Denis Mukwege, propos recueillis par Roger Muntu à Oslo.
Ce soir, dans À votre avis, nous parlons des personnes qui s'engagent personnellement pour le bien de leur communauté. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege consacre sa carrière de chirurgien aux femmes et filles violées, un combat pour lequel il a reçu ce lundi le prix Nobel de la paix. Connaissez-vous des exemples similaires dans votre pays? Un individu peut-il à lui seul transformer une communauté? Morgane Guerriec en votre compagnie. Réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
Au Cameroun, selon de récentes estimations, au moins 500 000 ressortissants des régions anglophones sont installés désormais dans les villes francophones du pays. Ces déplacés qui ont fui le conflit en zone anglophone vivent la plupart dans des conditions précaires. Constat de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
À Yaoundé, Timothée Moussorongo héberge 11 déplacés internes de la crise anglophone. Pour les nourrir, il a fait un champ dans un marécage du quartier Fulan et y passe désormais 2 heures chaque jour. Au total, 18 personnes cohabitent dans sa maison de 4 pièces.
Mon séjour ici à Yaoundé est bon parce que je parviens à présent à dormir. Avant, je pouvais passer toute une journée sans dormir à cause des coups de feu.
David est l'un des déplacés internes hébergés par Timothée Mosorongo.
Je voudrais rester ici jusqu'à ce que le coup de feu cesse et puis je vais rentrer. Parce que quand j'ai quitté le sud-ouest, ma maison était comme ici et les ambazoniens tiraient sur les maisons des gens et tuaient les gens.
À la paroisse presbytérienne anglophone de Siméon, l'un des quartiers de Yaoundé, plus de 200 déplacés internes ont été recensés ici et assistent régulièrement au culte dominical. Sous anonymat, certains évoquent leurs conditions de vie à Yaoundé.
Ma vie à Yaoundé est terrible. Je ne comprends pas la langue, même pour discuter avec les gens, pour dialoguer. Je me sens très mal ici.
Je suis ici depuis 4 mois avec mes 3 enfants. Ce n'est pas facile après avoir quitté mon lieu de résidence à Bouéa, à Mouyouka. Je suis ici avec ma petite sœur. Nous vivons chez elle et j'ai des difficultés à payer les frais de scolarité. Je fais à manger et je vends au marché. Je vais d'un point à l'autre parce que je n'ai pas encore un endroit fixe pour m'asseoir.
J'ai fait déjà 6 mois ici à Yaoundé. Je ne fais rien, je vais seulement à l'église. Chaque jour, je suis là, j'attends seulement le temps que Dieu va toucher les gens, je vais rentrer chez moi.
Ces déplacés saluent à juste titre l'élan de solidarité de la paroisse anglophone de l'église presbytérienne de Siméon, où un comité d'assistance aux déplacés internes a été mis sur pied. Les denrées alimentaires, les vêtements et de l'argent en espèces ont d'ailleurs été offerts à certains parmi eux. Cependant, la solidarité pour les déplacés anglophones à Yaoundé a parfois engendré des suspicions, témoigne Timothy Mosorongo.
Le ministère des gendarmeries avec le chef de quartier sont venus chez moi à la façon que les gens ont de donner le conseil que le papa là, il a gardé les ambazoniens chez lui avec les armes. Ils sont venus à 3h du matin, ils ont dit qu'ils vont fouiller la maison. Bon, après plusieurs mois, tout s'est passé bien.
Le 21 novembre dernier, le gouvernement camerounais a créé un centre de coordination de l'assistance humanitaire d'urgence pour encourager notamment les réfugiés internes à revenir au bercail. Yaoundé, Emmanuel Jolta, VOA Afrique.
Allons en Guinée, où la dépigmentation touche de nombreuses femmes de teint noir. Ces Guinéennes utilisent des crèmes et des médicaments pour se blanchir la peau, une pratique qui n'est pas sans risque pour celles qui veulent se faire aimer par les hommes. Devant le phénomène de plus en plus inquiétant, une jeune dame propose des produits cosmétiques naturels faits maison, comme nous le dit notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara.
À 29 ans, Fantasso, diplômée en audit et expertise, vit l'une de ses passions, le soin du corps. La démonstration à laquelle nous sommes invités est une occasion pour cette férue des cosmétiques de défendre ses savons.
Ça, on appelle ça la trace. Ça, c'est le début de la saponification. C'est à partir de là, de la trace, qu'on va ajouter notre ingrédient qui va créer la différence spécifiquement pour un soin qu'on a décidé de faire. Je sais qu'après, les gens vont se poser la question, on parle de naturel, mais on parle de soude caustique en même temps. Alors, la soude caustique naturelle ne veut pas dire bio.
La première étape de la saponification est terminée. Le mélange est recueilli dans un moule, mais il faudra attendre 2 semaines avant de retirer les savons qui seront ensuite exposés dans la boutique BHV Cosmétique. En 2 ans, la fabrication a doublé, passant de 50 à plus de 100 savons. Les clients se disent satisfaites. Ange-Marie s'est débarrassée des boutons au visage après 6 mois d'utilisation des savons de Fanta.
Je lui ai montré ma peau et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'elle avait la solution. Les produits m'ont été livrés et depuis je suis le traitement et c'est vraiment bon. J'ai encore quelques taches, mais ça va. Les boutons, ça va, franchement.
Dans la capitale, les produits éclaircissants sont bon marché. Et un quart des femmes reçues au service de la dermatologie de l'hôpital Donka viennent à cause de ces produits. Mariam a vu sa peau s'éclaircir, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Et depuis quelques mois, elle a arrêté d'utiliser les crèmes éclaircissantes.
Je me suis lancée dans la dépigmentation parce que j'avais des amis très près qui se dépigmentent et ils m'ont encouragée de me dépigmenter. Dès chaque fois, ce qu'ils utilisent m'amène, j'ai ressenti ces douleurs-là sur mon corps, des boutons. C'est à ce moment-là que je me suis retirée.
La peau de Mariam est redevenue comme avant grâce au savon de Fanta. La jeune dame qui savoure un coup de maître après un coup d'essai n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
L'objectif pour moi, c'est qu'on dise aujourd'hui que tous les Guinéens n'utilisent que des produits cosmétiques naturels, qui sont en pleine santé, parce que l'idée derrière, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, BHV soit vraiment le point focal de toute utilisation cosmétique en Guinée, un incontournable.
Dans sa boutique, Fanta propose toute une gamme de produits pour le soin des cheveux, des huiles et savons pour le corps. Si elle commence à se faire un nom dans la capitale, Fanta Sou est convaincue que le chemin pour la saponification naturelle est long, tant la majorité des Guinéens utilisent les produits cosmétiques industriels. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cinéma au Burkina Faso, la 14e édition des Ciné Droits Libres, le Festival international des films sur les droits humains et la liberté d'expression en Afrique, se tient en ce moment à Ouagadougou. Justice, levez-vous, c'est le thème choisi cette année par les organisateurs de la capitale du cinéma africain. Reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Affaire Norbert Zongo, affaire du push manqué de 2015, affaire Thomas Sankara. Les questions de justice sont plus que jamais d'actualité au Burkina Faso et dans les rues. Les citoyens ont des avis très tranchés sur la question. Aloïse Oussé est commerçant ambulant.
La justice au Burkina Faso se sont corrompus. Affaire de Norbert Zongo, affaire de Thomas Sankara. Et les gens sont assoiffés pour que la justice soit faite.
Judith Kiema est comédienne. Elle partage le même sentiment.
Sincèrement, de moi-même, je suis burkinabé. Depuis longtemps, j'entends parler des gens qui se plaignent de la justice qui marche chaque année à cause de Thomas Sankara, à cause de Norbert Zongo pour que la justice soit faite. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de résultat. Le peuple burkinabé a soif de la justice.
Et c'est ce qui a poussé les organisateurs de Ciné Droits Libres à se focaliser cette année sur la question de la justice au Burkina Faso et en Afrique. Abdoulaye Diallo, coordonnateur du Festival Ciné Droits Libres.
On sentait qu'il avait le procès du push au Burkina. On avait suivi un peu le procès de Khalifa Sall, le procès de Gbagbo. Il y a pas mal de questions de justice qui sont posées un peu sur le continent. Mais ça va être les 20 ans de l'affaire Norbert Zongo. Et tel que ça se faisait, on se disait, il y a des choses à suivre. C'est un thème qui préoccupe. Il faut y aller.
Au ministère de la Justice, on rassure. Des mesures sont prises pour rendre accessible et indépendante la justice. René Bagoro, ministre de la Justice.
Aujourd'hui, la justice est indépendante. C'est une réalité. Je vous rappelle que même pour nommer les procureurs, c'est appel à candidature.
Il y a des dossiers emblématiques, tels Norbert Zongo, Thomas Sankara. Ces dossiers reviennent chaque fois dans l'opinion. Les gens trouvent que ça traîne toujours.
Je suis conscient en tant que ministre en charge de la justice, surtout en charge des droits humains, que ces dossiers-là constituent un handicap pour l'appréciation positive qu'on fait de la justice. Nous travaillons à faire en sorte qu'aucun moyen ne soit mis de côté pour permettre à ces dossiers de sortir.
Des films engagés, tels Guerre de l'info, Au cœur de la machine russe, de Paul Moreira de la France, La République des Corps rompu de Salam Zampaligré du Burkina, ainsi que Congo Tribunal du Germano-Suisse Miloro, sont entre autres des films qui seront projetés à cette édition. Le Festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, débuté ce week-end, se poursuit jusqu'au 15 décembre prochain. Durant cette période, le festival entend faire le procès de la justice, avec une scène transformée en tribunal, et des films qui feront réfléchir sur les questions judiciaires en Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Mise en onde par Joselle Morissin, Curtis Bynon était à la console. John Linden vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Restez en compagnie de nos programmes avec l'information qui se poursuit.
l'actualité, le monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique,